Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, première de deux émissions, aujourd'hui intitulée « Lire le Père Sophronie », cette grande figure de l'orthodoxie dans le monde occidental, moine et disciple de Saint-Sylvain de Latos. Pour parler de ce père spirituel dont le souvenir reste vif auprès de ceux qui l'ont connu, ou bien sûr dans le monastère qu'il a lui-même fondé à Essex en Angleterre, nous recevons Jean-Claude Paulet, professeur émérite à l'université Louvain-la-Neuve et secrétaire général de l'association Saint-Sylvain de Latonite. Jean-Claude Paulet, nous avions fait deux émissions l'année dernière consacrées à Saint-Sylvain et au père Sophronie, émissions qui ont d'ailleurs été rediffusées en août dernier. Et cette fois-ci, ce sera pour parler des écrits du père Sophronie et des grandes idées théologiques qui marquent son œuvre. Et pour commencer, peut-être un bref rappel de sa vie.
Oui, le père Sophronie, on le sait, est né à Moscou en 1896 et il est mort en 1993 dans le monastère orthodoxe qu'il avait fondé en Angleterre. Artiste peintre, esprit spéculatif, tempérament mystique, après plusieurs années d'activité artistique, notamment à Paris, et de quêtes spirituelles de type oriental dont il expérimente les impasses, il revient au Christ. Il discerne en effet dans la personne du Christ la voie absolue qu'il avait cherchée en vain dans les spéculations orientales. Il devient alors moine au Moitos où il rencontre Sylvain dont l'itinéraire spirituel lui permet de trouver une issue au désespoir. Le désespoir où conduit aussi bien la perspective de la disparition de soi, la mort, dans le néant, que la dissolution de soi à l'oriental dans un absolu suprapersonnel. Cette issue au désespoir, c'est précisément celle qu'annonce dans sa deuxième partie la phrase entendue de la part du Christ par Sylvain. Une phrase qui lui venait du fond de son cœur profond. Phrase bien connue et bien commentée. « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Autrement dit, fais comme le Christ. Descends aux enfers et après, si tu acceptes de mourir à toutes tes attentes plus ou moins illusoires sans désespérer, tu ressusciteras. C'est sur cette base que l'œuvre de l'archimandrite Sophronie s'est construite. Mais il faut entendre ce mot « œuvre » dans son sens large, car si l'archimandrite Sophronie laisse après lui un certain nombre de livres et d'écrits, il a parallèlement, et à vrai dire d'abord, exercé une influence et une action spirituelle qui ont suscité un grand intérêt chez de plus en plus de personnes. C'est cette influence et sa réputation qui ont permis d'ailleurs à ses écrits d'émerger puis de se diffuser aujourd'hui dans le monde entier. Mais regardons maintenant de plus près les livres qu'il a écrits. Le plus important est celui qu'il a consacré à son maître, intitulé « Saint-Sylvain Latonite, vie, doctrine, écrit », actuellement publié aux éditions du Cerf, de même d'ailleurs que ses autres écrits. Le livre sur Saint-Sylvain est divisé en deux parties. La première, « Vie et enseignement du Staret Sylvain », reprend l'itinéraire spirituel et biographique de ce paysan russe, éveillé et initié à la sagesse du Christ par la grâce de l'Esprit-Saint. L'extrême importance de l'Esprit-Saint chez Saint-Sylvain est à souligner. Puis, le père Sophronie expose la doctrine qu'induit l'expérience de la connaissance de Dieu que Saint-Sylvain a vécue au cours des quelques 45 années de sa vie monastique. L'originalité de cette première partie tient au fait que toute la théologie, la théorie et la spiritualité chrétienne que le père Sophronie nous donne à saisir est directement fondée sur l'expérience de la présence de Dieu. Dans sa vie intérieure, cœur et esprit, une vie tout entière faite d'ascèse, d'esprit évangélique et de prière, Sylvain a pu vivre la connaissance de Dieu. Nous avons là affaire à la plus haute et à la plus authentique théologie. Celle qui est fondée non sur l'excellence métaphysique et rationnelle d'un esprit hautement spéculatif, mais sur la vie telle qu'elle se manifeste lorsque celle de l'homme et celle de Dieu viennent à se conjoindre. La grâce de Sylvain, c'est que cette expérience correspond à la juste doctrine orthodoxe, une doctrine que, par réciprocité, elle illustre en termes simples et frais. Car le père Sophronie est intraitable en fait d'orthodoxie à la suite de Sylvain. À ses yeux, je le cite, « L'influence de la doctrine sur la vie a une importance primordiale en vertu du lien étroit qui existe entre la conscience dogmatique et l'acte de la vie. » Et c'est ainsi qu'il rejette toute conception proprement philosophique de la contemplation. Je le cite encore. « la tradition ascétique orthodoxe rejette, comme erronée, la voie de la contemplation abstraite. Celui dont la méditation religieuse s'arrête à la contemplation abstraite du bien, de la beauté, de l'éternité, de l'amour, etc., fait fausse route. Fin de citation. C'est pour cette raison aussi qu'il insiste à ce point, en théologie trinitaire, sur la notion de personne ou d'hypostase, comme il préfère dire. Une notion qui conditionne tout ce qui est, conséquemment, le fondement même de l'anthropologie, l'homme étant fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous reviendrons sur cette question lors de la deuxième émission. Il écrit dans le livre sur Saint Silouane, aux pages 111 et 112, n'est-ce pas ? Je le cite. « La manifestation du Dieu hypostatique à l'homme lui fait prendre conscience que le principe hypostatique est le mode d'existence de l'absolu, de l'éternel. Que l'hypostase n'est pas une dimension limitative, mais qu'elle est celui qui vit réellement « je suis ». Hors de cette dimension du Dieu hypostatique, rien n'existe et ne peut exister. En Dieu, il n'y a pas d'essence qui se situerait au-delà de l'hypostase. On dirait de la personne, n'est-ce pas, aussi par ailleurs. C'est pourquoi la prière chrétienne s'adresse au Dieu hypostatique et dit « notre Père », visant une personne. Elle n'est pas orientée vers une essence transpersonnelle. Et il poursuit à la page 112 « Cette connaissance nous révèle que nous sommes des hypostases, des personnes créées, douées de la liberté d'une autodétermination qui peut s'exercer, soit négativement, soit positivement, par rapport à notre modèle premier. Dans le cas présent, nous ne parlons que de la seconde hypothèse. Une hypostase libre, non déterminée, ne peut être créée que comme une pure potentialité qui devra par la suite s'actualiser. » Ainsi ne sommes-nous pas encore pleinement des hypostases. À partir d'une existence atomisée, nous passons par un processus plus ou moins long d'actualisation du mode hypostatique de notre existence. Il ne faut pas confondre la notion de personne, hypostase, avec celle d'individu. Bien plus, ce sont les deux pôles opposés de l'être humain. L'un exprime l'extrême point d'aboutissement de la division. En grec, individu se dit « atome ». C'est un état résultant de la chute. L'autre se réfère à l'image de Dieu selon laquelle Adam fut créé et dans le sein duquel était potentiellement concentrée toute l'humanité. C'est cette image qui nous a été révélée par le Verbe incarné. En raison de ce qui vient d'être dit, quand nous pensons à Dieu, nous ne projetons pas le concept limitatif d'individu sur l'être divin, pour ensuite nier en lui le moment hypostatique et par conséquent tendre vers un absolu suprapersonnel. Le mouvement de notre esprit s'exprime dans la prière face à face, c'est-à-dire de l'hypostase créée, dirigée vers l'hypostase de Dieu. Il est essentiel que se développe en l'homme son principe hypostatique. Le principe hypostatique, c'est-à-dire le principe de la personne, de la vie divine, aussi bien que de la personne humaine, de la vie humaine, l'une étant incréée, l'autre étant créée, sont précisément conjoints, en quelque sorte manifestés dans leur unicité par l'hypostase du Christ. C'est la raison pour laquelle le Christ est le modèle et la voie de la réalisation chrétienne, en général orthodoxe évidemment, en particulier dans cette voie monastique que le Père Sophronie a tracée.
Alors, c'est le livre sur Saint Silouane, son maître spirituel. Et il y a dans ce livre, je crois, aussi des choses écrites par Saint Silouane lui-même, non ? Est-ce que Saint Silouane avait donné des œuvres complètes ou...
C'est en fait la deuxième partie du livre Saint-Silouane d'Atonite, n'est-ce pas ? Cette deuxième partie est constituée par les écrits du saint, en effet. Souvent, c'était des notes éparses, que le Père Sophronie a recueillies, classées thématiquement, puis ordonnées systématiquement. Ici, dans les écrits de Silouane, il y a peu de conceptualisation. Pour le lecteur, l'intelligence des choses dites résulte en quelque sorte de l'approfondissement de leur sens profond, non de leur signification discursive. Je donne un exemple des écrits de Saint Silouane. Et vous verrez que nous avons affaire là à une personne remarquablement intelligente, remarquablement éclairée, mais qui ne s'exprime pas en termes conceptuels, philosophiques ou théologiques classiques. Il dit ceci, c'est à la page 329-330 du livre sur Saint Silouane. « Voici la vraie liberté, c'est d'être en Dieu. Autrefois, moi non plus, je ne le savais pas. Jusqu'à 27 ans, je croyais seulement que Dieu existe, mais je ne le connaissais pas. Mais depuis que mon âme l'a connu par l'Esprit Saint, elle s'élance vers lui avec ardeur. Et maintenant, jour et nuit, je le cherche avec un cœur brûlant. Le Seigneur veut que nous nous aimions les uns les autres. C'est en ceci que consiste la liberté, dans l'amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est là qu'on trouve et la liberté et l'égalité. Dans le rôle social, il ne peut y avoir d'égalité, mais cela n'a pas d'importance pour l'âme. Vous voyez ici, saint Silouane s'exprime d'une manière extrêmement nette, extrêmement claire sur le plan à la fois théologique et anthropologique, mais il n'y a pas de conceptualisation, de théorisation manifeste. Les chapitres de cette partie-là de saint Silouane se succèdent et illustrent, autant qu'ils fondent d'ailleurs à chaque fois, la synthèse doctrinale que le père Sophronie a déployée dans la première partie. Nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque, dans notre deuxième émission, nous mettrons l'accent sur un thème théologique et spirituel particulièrement décisif, tiré par le père Sophronie du message de saint Silouane, autant d'ailleurs que de sa propre expérience. Dans la continuité de ce livre sur saint Silouane, livre majeur et livre original, il y a d'autres livres.
Avant de passer aux autres livres, si vous voulez bien, ce qu'on va faire, c'est une pause. Elle sera musicale et ce sera, comme toutes les pauses d'ailleurs musicales qu'on aura pour ces deux émissions, des compositions de Arvo Pärt. Un mot peut-être sur les liens de Arvo Pärt, grand compositeur estonien que nous connaissons, avec le père Sophronie, avant d'écouter son œuvre.
Alors Arvo Pärt est quelqu'un qui a été extrêmement discret tout au long de sa carrière et n'a jamais fait état visiblement de son appartenance à l'orthodoxie et à saint Silouane ou au père Sophronie. Mais j'ai eu l'occasion de le connaître et de le rencontrer précisément en étant au monastère en Angleterre, auprès duquel il s'est établi un moment, puisqu'il a même acheté une petite maison à côté du monastère où il vient régulièrement. Et donc son engagement a aussi a eu un écho lorsqu'il a été question de créer cette maison particulière qui est la maison de ses archives, la maison, je dirais, du culte de son œuvre ou de la culture de son œuvre en Estonie. Il a consacré dans cet ensemble une petite chapelle à saint Silouane. Et c'est une espèce d'exception culturelle de type religieux à l'intérieur d'un univers essentiellement musical.
Très bien, on va écouter donc une œuvre d'Arvo Pärt, un extrait. C'est un magnificat antiphonaire, un extrait donc sagesse, le verset s'appelle comme ça, et c'est chanté par l'ensemble vocal Theatre of Voices, dirigé par Paul Hillier. Et après cet extrait d'Arvo Pärt, donc disciple du père Sophronie, On revient à notre entretien avec Jean-Claude Paulet sur les écrits du Père Sophronie, les autres livres. Donc on a parlé de celui qui est peut-être le livre majeur, je ne sais pas, mais peut-être le fondement, puisqu'il part de son maître spirituel, Saint-Silouane. Les deux autres livres que vous nous conseillez?
Écoutez, il y en a plus que deux, hein, à vrai dire, mais je vais être rapide sur un des premiers. Il a écrit un livre qui s'appelle « Sa vie est la mienne ». Et c'est un livre où il développe énormément la réalité fondamentale de sa manière de concevoir Dieu à la suite de Moïse et à la suite du Christ. Nous y reviendrons dans la deuxième émission. C'est là qu'il met en évidence la révélation du « je suis », c'est-à-dire la révélation de la personne comme fondement même de l'être divin et comme fondement même, dès lors, de l'être humain. Ce livre « Sa vie est la mienne » est un livre, disons, important, mais il a été suivi par un autre livre qui n'est pas de moindre importance et même, je crois, peut-être plus décisif sur bien des plans parce qu'il touche directement la pratique de la spiritualité. Ce livre, c'est « La prière, expérience de l'éternité ». Pourquoi est-ce essentiel? Car la prière est l'acte de la sagesse suprême, le moyen par excellence de l'exploration et de la découverte de la vie intérieure. Une création toujours jaillissante et infinie, supérieure à tout autre art, et pour le Père Sophronie c'est évidemment significatif, lui qui était un grand artiste peintre, et de toute autre science, lui qui est un esprit spéculatif et encyclopédique, qui lorsqu'elle est conduite comme il faut, est, comme il le dit le titre du livre, expérience de l'éternité. Mais cette éternité, l'éternité véritable n'est pas comme la rationalité mécaniste l'envisage, sortie du temps. L'éternité ici expérimentée est libération des entraves du temps pour la mort et accès vivifiant à l'énergie de la vie divine dont la prière est tout à la fois le réceptacle et le véhicule. Tout le livre s'emploie à montrer en quoi et comment la prière est la voie royale vers la connaissance de Dieu, vers la connaissance de soi et de leurs relations telles que le Christ les incarne dans sa personne. Cela étant, la prière est aussi victoire sur la tragédie de la destinée terrestre de l'homme, déchu, livré à lui-même. Mais la prière est aussi le creuset, la fournaise, au cœur de laquelle les passions qui attirent et tiennent l'homme enfermé dans sa condition mortelle doivent se consumer pour permettre à la vie divine de venir prendre leur place. Il s'agit en fait à l'orgueil humain de s'abolir pour laisser la place à l'humilité de Dieu, car Dieu est humble, Dieu est humilité. Pour prier comme il faut, rien ne vaut d'être guidé, cependant, par un maître expérimenté, un père spirituel, qui après une longue pratique, comme Saint-Silouane, comme le Père Sophronie lui-même, peut aider, conseiller, mettre en garde contre les illusions multiples qui, à chaque étape, à chaque progrès, s'ingénient à fourvoyer celui qui s'est engagé dans cette voie royale semée d'embûches. Ce livre, comme les autres, est fondé sur l'expérience personnelle du Père Sophronie, qui dans son exposé alterne les considérations, disons, théoriques et le récit d'exemples ou les confidences de ses expériences salutaires. Le dernier livre dont nous allons parler s'intitule « Voir Dieu tel qu'il est ». Il a été rédigé, au soir de la longue vie du Père Sophronie, comme une anamnèse de son cheminement et de ses expériences spirituelles, évoquées, comme dans les autres livres d'ailleurs, dans une alternance de récits, de confidences, de références évangéliques et patristiques, et de théorisations. Le propos, le mobile de ce livre, autant que des autres d'ailleurs, est d'indiquer la voie qui peut rendre l'espérance et le sens au monde tel qu'il est aujourd'hui, submergé par le désespoir et distrait par les valeurs dérisoires qui le dominent. Il commence par évoquer le point d'appui de toute démarche spirituelle, l'évidence de la mort qui aussitôt induit dans la pensée la conscience de l'incommensurabilité entre la condition humaine et l'absolu dont l'homme a l'intuition et la nostalgie. Cette incommensurabilité, cette absence de commune mesure, c'est ce que la tradition chrétienne appelle la crainte de Dieu, non pas la peur, mais l'effroyable vertige qui saisit la conscience lorsqu'elle réalise la contradiction absolue entre la finitude de l'homme, qui meurt, et l'infini de Dieu, qui est incréé au-delà de toute possibilité de néant. À cette situation de désespoir de l'homme répond à l'image et à la ressemblance du Christ descendant aux enfers, la descente dans les profondeurs de l'intériorité, à la recherche du point d'appui du néant de l'homme. Ce mouvement, que la spiritualité chrétienne appelle le repentir, d'étape en étape, on arrive finalement à pénétrer l'être de l'homme de l'humilité du Christ. L'humilité du Christ, c'est en l'homme l'énergie de l'amour qu'est Dieu. L'homme doit ainsi faire comme Dieu, et à l'image et à la ressemblance des trois personnes de la Trinité, faire en soi toute la place à l'autre. Certes, cela ne s'obtient pas sans efforts ascétiques, sans tribulation, sans ténacité et endurance, sans diverses vicissitudes dont il faut être prévenu, mais l'essentiel est de l'ordre de la vie intérieure, et on l'a vu, de la prière qui sauve.
Merci beaucoup Jean-Claude Paulet. Donc pour cette première partie, c'était donc le dernier livre que vous avez évoqué, c'était « Voir Dieu tel qu'il est », un grand livre du Père Sophronie. Pour nous quitter, nous allons maintenant le faire encore sur la musique de Ave au Père. C'est un chant qui s'appelle « Lamentation d'Adam », inspiré des paroles de Saint Silouane, qui était le maître spirituel du Père Sophronie. Et donc, ce chant est trop long, évidemment, on peut pas l'entendre en entier, mais on va en entendre un petit bout maintenant, et c'est une composition des années 2009-2010, donc assez proche dans le temps, et c'est Vox Clamantis qui chante, qui est l'ensemble qu'il a lui-même créé, et d'autres musiciens avec l'ensemble sur direction de Tonu Caljuste. C'était « Lire le Père Sophronie », première émission avec Jean-Claude Paulet. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Philippe Mercher. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.